5 4 3 2 1
Pas de blabla. Une émission de Patrice Salin. On parle culture, on n'y va pas par quatre chemins.
Ils sont partis.
Et oui, vous pensiez peut-être que nous allions démarrer sur les chapeaux de roue, mais c'était un piège. Le nouveau générique, une nouvelle émission, pas de blabla. Monsieur Seb à la réalisation technique, Patrice au micro. Comme nous sommes contents de vous retrouver après... Oh là 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 là, la crise qu'on s'est tapée là, et c'est pas fini, mais on est de retour. Pas de blabla, la première. Avec un générique, on a tout changé, monsieur Seb, on a tout changé. On a mis le thème du film « Mon nom est personne », un thème de Ennio Morricone, et puis la charmante voix de la charmante demoiselle de Radio Évasion. Eh bien, donc, pas de blabla, ce sera pas tous les jeudis, ce sera deux jeudis par mois en direct, donc pareil, 10h50 ce matin. Nous allons recevoir Emmanuel Holder, il est déjà avec nous, alors c'est formidable, on a un petit peu inversé les choses, d'habitude le phoneur était en seconde partie d'émission, aujourd'hui il sera en première partie d'émission, on va tout vous expliquer, Emmanuel Holder qui est le conservateur des réserves du Venec, et du Cragou et du Vergame. J'ai un petit peu de mal avec ce mot-là, mais on y arrivera. Il va nous raconter tout ça tout à l'heure. On va parler du magazine Glaze qui a été lancé par Manu Holder et puis aussi de son dernier livre, Eau douce à la découverte d'un milieu naturel breton chez nos amis de Cobrez. On se fait une première pause musicale. Monsieur Seb, allez-y, envoyez un petit peu de musique et à tout de suite.
Encore un jour à se lever en même temps que le soleil, la face encore un peu poquée, mon 4 heures de sommeil. Je tire une coupe de pof de clope, job done pour les vitamines, puis un bon café à l'eau de mop, histoire de se donner meilleur mieux. Yeah. Le Florida Turnpike, et demain soir j't'ai à Montmagny. Non, Truckers, pas vraiment une Klondike, mais tu vois du pays, yeah. Surtout ça te fait réaliser que derrière les beaux paysages, y'a tellement d'inégalités et de souffrances sur les visages. La question que je me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Moi je traîne dans ma remorque tous les excès de mon époque, la surabondance surgelée, shootée, suremballée, yeah. Pendant que les vœux pieux passent dans le beurre, que notre insouciance est repue, c'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. La question je me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que des ruines et la faim? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parte mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Sur l'Interstate 95, partent fumer tous les rêves. Un char en feu dans une bretelle, un accident mortel, yeah. Et au milieu de ce bouchon, pas de respect pour la mort, chacun son tour joue du klaxon, tellement pressé d'aller nulle part. La question que je me pose tout le temps, mais où s'en vont tous ces gens? Il y a tellement de chars partout, le monde est rendu fou. C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur.
Un
rock stop d'autoroute, poigné pour manger de la chenoute. C'est vrai que dans la soupe du jour, y'a plus tellement d'amour, yeah. On a tué la chaleur humaine avec le service à la chaîne. À la télé, un autre malade vient déclencher une fusillade. La question que je me pose tout le temps, mais comment font ces pauvres gens pour traverser tout le cours d'une vie sans amour? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétro. Ouais, n'empêche que moi aussi, quand je roule tout seul dans la nuit, je me demande des fois ce que je fous ici, pris dans l'arrière-pays, yeah. Je pense à tout ce que j'ai manqué avec Mimi pis les deux filles, et j'ai ce sentiment fucké d'être étranger dans ma famille. La question que je me pose tout le temps, pourquoi travailler autant, éloigné de ceux que j'aime, tout ça pour jouer la game. C'est si triste que des fois, quand je suis loin de la maison, assis dans mon vieux camion, j'ai toute l'Amérique qui pleure quelque part au fond du cœur.
L'un des tubes, évidemment, des Cowboys Fringants, groupe québécois-canadien. Ils seront eh bien, le 22 février à 20h à l'Arena de Brest avec la sortie de leur 10e album, Les Antipodes. J'imagine que c'est déjà plein, complet, les Cowboys Fringants. Voilà, eh bien, le premier phoneur de la saison, Monsieur Seb, envoyez le jingle. C'est incroyable comme vous êtes mou ce matin. Vous avez fait exprès pour les musiques ou quoi, monsieur Seb?
Non, là, je découvre avec toi, en fait.
Ah, bah, la voix. Bonjour, monsieur Seb.
Ça va? Ouais,
ça va, ouais, et vous?
Ça va, ça va.
Donc, le phoneur, c'est le distrait, évidemment, avec Pierre Richard. Nous sommes avec Violaine Offrette du Musée de la Fraise et du Patrimoine de Plougastel. Bonjour, Violaine.
Bonjour.
Violaine, qui est chargée de la communication, entre autres, du Musée de la Fraise.
Tout à fait, et de la médiation aussi.
Super, et donc c'est pour ça qu'on a inversé le phoneur ce matin, parce que Violaine, elle sera occupée tout à l'heure à partir de 10h30 dans une animation au Musée de la Fraise. Alors c'est la réouverture du Musée de la Fraise, Violaine, dites-nous.
Oui, tout à fait, on a réouvert en fait mardi, après un mois de fermeture. Donc ça fait du bien aussi de retrouver les visiteurs, les enfants pour les animations, et aussi les plus grands.
Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant cette fermeture, Violaine?
Alors en fait, on en profite tous les ans, au mois de janvier, on ferme nos portes pour notamment prendre soin de nos collections. Parce qu'en fait, le Musée de la Fraise et du Patrimoine, on parle évidemment de fraises, mais on a aussi toute une collection qui touche les costumes de Plougastel. Et aussi, en fait, diverses scènes qui sont proposées dans le musée, différents objets. Et du coup, c'est le moment pour nous de dépoussiérer, nettoyer, astiquer. Pendant le mois de janvier avec l'équipe du musée, donc les deux salariés, les bénévoles et aussi le conseil d'administration du musée.
Alors ça fait combien de personnes autour du musée si on compte les bénévoles? Alors, Violaine, il y a beaucoup de bénévoles d'ailleurs, non?
Il y a plusieurs bénévoles, il y a on va dire une petite vingtaine de bénévoles qui ont chacun leur particularité. Certains sont plus liés au costume, d'autres plus à tout ce qui est mobilier, d'autres plus sur la peinture. Enfin, il y a vraiment plusieurs, on va dire... presque corde de métier finalement. Donc du coup, c'est assez chouette d'avoir une équipe très diversifiée.
Alors cette culture, c'est un peu une culture à part qu'il y a à Plougastel quand même, hein, avec non seulement les costumes, le mobilier, l'histoire par elle-même, du fait que ce soit aussi une presqu'île, c'est extrêmement riche Plougastel.
Ah oui, complètement. Bah, souvent, je vous avoue que les visiteurs qui viennent et qui connaissent pas vraiment la presqu'île de Plougastel sont assez surpris de par le musée, parce qu'ils s'attendent souvent à ce que ça soit uniquement centré sur la fraise. Et finalement,
ah oui,
en fait, quand ils ressortent, ils nous posent vraiment beaucoup de questions sur justement l'histoire de la presqu'île, le fait de vivre sur une presqu'île aussi. Donc c'est ça qui est aussi intéressant, et je pense que c'est aussi pour ça que bah, notamment les animations même sur la presqu'île, en balade guidée notamment, attirent aussi autant. C'est que chacun peut découvrir en fait de nouvelles choses sur la presqu'île, en dehors de la fraise aussi, quoi.
Il y a énormément de chemins de randonnée sur la presqu'île de Plougastel. C'est une pépite pour les randonneurs, Plougastel.
C'est sûr.
Il y a des chemins partout. Je conseille d'aller voir le site Instagram Chemin de Plougastel. Non, c'est vachement bien. Si.
Ouais.
Plougastel, c'est particulier. D'ailleurs, le musée a recréé un habitat typique de Plougastel, il me semble. Hein.
Tout à fait. En fait, on a une reconstitution d'un intérieur Plougastel dans le musée, dans la partie ancienne du musée, qui est présent depuis l'ouverture de celui-ci dans les années 90. Et en fait, il permet notamment de redécouvrir un peu comment étaient aménagées certaines maisons et de redécouvrir du coup tout ce qui est vaisselle, objets plus anciens qu'on a des fois tendance à oublier tout simplement parce qu'ils sont plus vraiment utiles aujourd'hui avec l'arrivée des nouvelles technologies ou de l'électricité, etc. Donc du coup, on essaye de le valoriser à travers des visites et là même à travers des animations. Par exemple, hier, on faisait une animation sur la peinture sur porcelaine et les assiettes anciennes qui sont notamment présentes dans l'intérieur Plougastel. Donc on essaye de varier, on va dire, le contenu pour essayer d'apporter le plus de valorisation en collection, tout simplement.
Il y a beaucoup d'anciens à Plougastel. Je ne sais pas, il doit y avoir un microclimat. On vit énormément. Il y a des personnes qui viennent rester assez longtemps dans la presqu'île de Plougastel, et tant mieux. Et d'ailleurs, elles ont souvent chez elles, ces personnes, des faïences, de la faïencerie, des petites statues qui représentent des personnes en habit traditionnel, etc. C'est vrai, hein?
Oui, ça, et les saintes aussi, notamment Sainte Anne, qui est très populaire chez les Plougastel. Donc c'est vrai que tout ce patrimoine-là, en fait, finalement, on l'en voit encore aujourd'hui dans les maisons qui sont actuelles. C'est pas ce qui est présenté dans le musée, c'est pas forcément aussi des choses qui sont extrêmement anciennes. On a aussi des choses en fait qui ont perduré dans le patrimoine de chacun. Par exemple, les vaisseliers, on en trouve encore de nombreux dans certaines maisons sur la presqu'île et ailleurs. Et du coup, ça aussi, en fait, les gens sont étonnés d'en voir des fois dans le musée parce que ils se disent que finalement, ils ont le même schéma micro.
Ben oui, et je crois que à force de voir ces objets-là à la maison, chez grand-père ou chez grand-mère, etc., ils ne se rendent plus compte que c'est un objet en quelque sorte qui a de l'importance.
Mmh, tout à fait. Donc c'est aussi pour ça, c'est aussi une volonté des guides qui sont présents dans le musée de justement remettre le doigt sur des choses qui peuvent paraître, on va dire, incluses dans le quotidien, alors qu'en fait c'est aussi une particularité du territoire.
Et les habits, enfin les costumes Plougastel de ce siècle ou de l'autre siècle, surtout du 20e.
Bah justement, ce matin, on fait une animation autour de la peinture et des costumes. Donc on va voir avec les enfants et les plus grands qui accompagnent également justement l'histoire du costume, puisque le musée propose des costumes de 1820, wow. 1850 à nos jours. Donc on voit vraiment l'évolution des costumes de la presqu'île. Et c'est vrai que c'est une part importante de la collection du musée. Et c'est aussi un costume qui est très, très coloré. Alors bien sûr, il s'est assombri au début du 20e siècle, mais on a encore des petites particularités, des petites choses qui font tout l'intérêt de ce costume-là. Et plus on le regarde, de toute façon, plus on découvre les détails.
Oui, parce que c'est déjà, il y a le sens du détail, et ce sont des costumes qui sont particulièrement beaux. Enfin, c'est bluffant hein, quand on les regarde de plus près, si on s'intéresse à ça et si on s'y penche, évidemment. Mais
oui.
Carrément. Il y a cette couleur-là, mauve d'ailleurs, particulière à Plougastel.
Le MOOC.
Ça interpelle Emmanuel Holder, puisque le magazine Glaze, c'est un MOOC. Alors, le MOOC, c'est magazine et book. Bonjour Manu, d'abord, vous êtes là avec nous depuis le début.
Bonjour.
Bonjour. Ça vous parle un petit peu, Plougastel, quand vous entendez Violaine ou pas, parler de culture Plougastel, d'habits, évidemment, c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, non, sûrement?
Oui, mais ce qui m'intéresse plus à Plougastel, c'est effectivement la nature, le littoral de Plougastel, qui est bien connu, effectivement.
Oui, très connu. Je pense que j'ai un petit peu pris à l'improviste le pauvre Manu qui est en train de vous écouter.
Mais en même temps, il a raison. C'est vrai que tout ce qui est patrimoine naturel et géologique, c'est bien important sur la commune aussi. Ouais. Et c'est aussi notre richesse patrimoniale qui mérite d'être mise en avant. Donc
Oui, c'est vrai. Quelles sont les animations à venir? Alors, Violaine, il y a les animations en famille. Donc, on en a parlé un petit peu, mais des ateliers pour enfants. Il y aura aussi des balades guidées, des visites.
Tout à fait. Il y a une balade guidée, notamment, qui est prévue le 23 février en après-midi, qui va, en fait, permettre de découvrir la chapelle Saint-Jean, donc l'intérieur et l'extérieur. Et en plus, cette balade guidée, a aussi une particularité, c'est qu'il y aura des poétesses qui vont intervenir dans la balade pour avoir aussi un côté lyrique pendant cette balade guidée qui va se centrer donc sur l'architecture, la statuaire et aussi justement le patrimoine naturel qui est autour de la chapelle. Donc on a ce genre d'animation-ci et on a aussi des animations plus dédiées justement aux enfants, aux familles, notamment autour des initiations pardon, à la broderie, parce qu'on parlait tout à l'heure des costumes. Bah, justement, on essaye aussi de valoriser ce patrimoine-là, ce savoir-faire et des visites guidées qui se déroulent chaque mois. On a des différentes animations.
Alors, et pour chaque activité, vous pouvez réserver au 02 98 40 21 18. C'est le numéro de téléphone du musée de la fraise et du patrimoine. Ne pas oublier patrimoine, hein, effectivement, comme le disait Violaine au début de l'interview. Contact.musée.fraise@gmail.com. Port du masque obligatoire et présentation du pass sanitaire. Formidable, Violaine. On en a appris plein de choses sur le musée de la fraise et du patrimoine. Il faut y aller.
Merci à vous, en tout cas.
À très bientôt, Violaine. À bientôt au Musée de la Fraise. Merci, Plougastel. Kenavo.
Kenavo.
On y me zode au digne ouin da gauche de plusieurs neuves.
On y me zode au digne ouin da gauche de plusieurs neuves.
Pas au scrive doit rombrer. Vive la liberté.
Pas au scrive doit rombrer. Vive la liberté.
Ben poteva chiamener dem zi de la bura.
Ben poteva chiamener dem zi de la bura.
Ben nai vevi je cresti, don vi je buerima.
Ben nai vevi je cresti, don vi je buerima.
Je le renant ton gant de porc, trinci liberbage.
Dans ton gant de report, Trancini
Berbage. Oui, Zarkantan Warichouk, qui compte oui à Doye.
Oui, Zarkantan Warichouk, compte oui à Doye.
Non, entrez, y'a le Barzenti, bonsoir, Noëlare.
Canon, entrez, y'a le Barzenti, bonsoir, Noëlare.
Dagoulen, gant de Rigouz, ma bonne Loiroye.
Dagoulen, gant de Rigouz, ma bonne Loiroye.
Tant qu'il y a sur mes deux nangos, y'a un bras à
billard.
Dit d'or, t'es ta chemineur, dit d'or, t'es ta dalenta.
C'est vrai que je vois mieux avec mes lunettes quand même. Voilà, c'était Jan Fanch qui est meneur avec Eric Mento, hein, quand on discante vive la liberté. Il n'aurait pas aimé, Yann de Fanche, que je le dise en français d'ailleurs. Tiens. Vous êtes sur Radio Évasion dans Pas de Blabla et ce matin, après avoir reçu Violaine Offret du Musée de la Fraise, nous recevons Emmanuel Holder. Emmanuel Holder, bonjour, merci Manu d'être là avec nous ce matin.
Bonjour.
En direct, on m'a dit que vous étiez passé très vite dans les villages pour venir jusqu'au fou.
Mais non, mais non, mais non.
Fie-toi si jamais il y a des policiers qui...
Alors, Emmanuel, je ne vais pas me tromper, photographe naturaliste, mais ça j'imagine que c'est un plaisir, une passion.
Oui, on peut difficilement vivre de cet art et c'est effectivement une passion, mais... qui m'anime depuis longtemps, depuis que je suis tout petit.
On va y revenir. Conservateur des deux réserves naturelles des Monts d'Arrée pour l'association Bretagne Vivante.
Tout à fait.
Oui. Hein, tu n'hésites pas à me couper, vous n'hésitez pas à me couper si je me trompe, évidemment. Alors, il y a la réserve naturelle du Venec, la fameuse tourbière du Venec autour du lac de Brennilis. Hein.
Oui, enfin, plutôt dans le
ouais,
lac
plutôt,
de Brennilis.
Ouais, dans, que, ouais. On dit voilà, dans le lac de Brennilis.
Bah, disons que c'est qu'une petite tourbière. Tout le monde a l'impression que l'ensemble des landes tourbeuses et des landes est protégé autour du lac. Mais en fait, c'est qu'une seule petite partie, 47 hectares. Et d'ailleurs, pour l'instant, elle n'est que 47 hectares. Mais d'ici la fin de l'année, oui. Peut-être qu'elle va être étendue à 334 hectares.
Ça va, c'est peut-être, c'est même sûr, non ?
C'est bien parti, mais après, bah, y a...
De 47 à plus de 300.
Ouais, 334, ouais.
Oui. Ça va vous donner beaucoup plus de travail. Hein.
Oui, mais on sera beaucoup plus nombreux aussi.
Oui, je crois qu'il y a une création de postes de travail,
oui,
non ?
Oui, il devrait y avoir une création de postes.
D'accord, et puis parce que vous êtes aussi... Donc, alors, j'ai dit la réserve naturelle du Venec, il y a aussi les Landes du Cragou,
oui,
et du Vergame.
Alors, la réserve naturelle régionale des Landes du Cragou et du Vergame, c'est en fait deux sites, le Cragou et le Vergame, et qui ont été classés en 2008 pour protéger les landes, des landes tourbeuses que nous gérons là-bas, grâce à du pâturage pour les landes les plus humides et de la fauge pour les landes les plus sèches.
Pour que les auditeurs, Emmanuel, situent un petit peu les endroits, sur quelle commune se trouve exactement ? Alors je sais que le Venec, c'est sur Brennilis, Loqueffret ?
Brennilis seulement.
Brennilis,
non,
seulement
non, Brennilis,
oui, ok. Oui, et le Cragou est...
Alors le Cragou, il est à cheval sur le cloître Saint-Égonec, Plougonvin pour le versant nord et Scrignac pour le versant sud.
Ah,
et le Vergame est essentiellement sur Scrignac, mais un petit bout sur les Anneranou et un petit bout sur Plougonvin.
D'accord. Alors, Emmanuel, vous êtes breton aujourd'hui. On en parlait hors antenne, évidemment, qu'on peut vous considérer comme breton. Mais vous êtes né en Moselle, vous avez grandi en Moselle.
Oui, tout à fait, ouais, à Creutzwald, sur la frontière allemande, ce qui n'explique pas que je parle pas du tout l'allemand, mais bon, bref.
Ah, ja, schön, Creutzwald. Non, je connais pas un petit village.
Non, c'est plutôt une grande ville comparée aux tailles des villes bretonnes, puisqu'il y a 20 000 habitants. Donc,
oui, voilà. C'est sûr que par rapport à Bonnemeur, où vous vivez, ça change un petit peu.
Ah, c'est pas la même taille. Oui,
vous êtes arrivé quand en Bretagne pour le coup, pour le travail ?
En 97, pour être directeur de la Maison de la Nature de Glomel, quoi. Et c'était.
Ah, mais c'est assez récent finalement. Enfin, nous, ça nous paraît pas très loin. 97.
Ouais, 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 ouais,
enfin,
ouais.
Le temps passe vite. Quand
la
même.
Guerre était finie, ouais.
Alors, et aussi, vous êtes, Emmanuel, policier de la nature, on dit ça comme ça ?
Alors, je suis surtout conservateur de réserves naturelles et effectivement, je suis commissionné pour trois législations liées à la protection de la nature, ce qui me permet d'avoir un espèce de blason bleu-blanc-rouge sur la poitrine qui calme les ardeurs des gens qui font un peu n'importe quoi des fois sur les réserves naturelles. Mais...
Ah, qu'est-ce qu'ils font les gens ? Qu'ils font n'importe quoi par exemple ?
C'est pas grand-chose, la plupart du temps, c'est par exemple...
Ils se rendent pas compte ?
Non, la plupart du temps, c'est se promener par exemple avec un chien détaché alors que c'est interdit,
ah oui.
Faut le tenir en laisse. Alors pourquoi ? Eh ben simplement parce que le Yuki le plus ridicule, eh bien reste un prédateur et s'il tombe sur un nid, et comme sur les Landes, c'est des milieux ouverts, qu'il n'y a pas d'arbres, donc les oiseaux nichent au sol. Et donc, ben, si Yuki trouve une nichée, ben, il boucle les œufs ou les poussins, et voilà quoi. Même s'il a une gamelle le soir.
Ouais,
bon,
ouais.
On pourrait dire que les renards font la même chose, sauf que les renards, ben, c'est pas pareil, ils
c'est
font partie
milieu, ouais,
voilà,
du milieu naturel.
Voilà, tout à fait. Donc, bon, on leur explique ça, et puis, bon, ben, qu'on touche à Yuki, quoi, généralement, maman n'est pas contente.
Et pourquoi vous l'appelez Yuki ?
Parce que
vous avez moi, j'ai eu un chien qui s'appelait Yuki.
Ben, tu vois. Ouais, tu comprends tout de suite de qui je parle.
Voilà, c'est vrai, ça doit être assez commun comme nom chez les chiens. C'est très riche, une tourbière.
Oui, c'est très riche. On a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose, mais derrière chaque touffe de Molini, donc cette herbe-là qui forme des grosses touffes, eh bien, on peut avoir pas mal d'animaux, des canards, mais aussi des lézards vivipares, des vipères, des libellules, des papillons. Et puis à l'intérieur même de la touffe de Molini, on peut avoir jusqu'à 100 espèces différentes d'animaux, quoi. Pas 100 individus, mais bien 100 espèces différentes, quoi. Donc c'est quand même vraiment... quelque chose de passionnément riche, passionnément, parce que c'est toujours intéressant aussi d'aller les chercher, de les inventorier, de regarder ce qu'il y a de plus précisément dans ces milieux naturels.
Qu'est-ce qui vous a... Pourquoi vous êtes arrivé là, Emmanuel Holder, vous intéressez à la nature comme ça ?
Mais parce que j'ai appris à lire dans la Hulotte, la gazette la plus lue dans les terriers. Mon parrain m'avait offert cet abonnement quand j'étais tout petit.
La Hulotte.
Oui, la Hulotte, oui. Okay. C'est un fanzine en quelque sorte, hein, qui vient de fêter ses 50 ans. Et puis je partais dans la forêt, je partais dans les trous d'eau, dans les mares. J'ai dû pourrir, je sais pas moi, 3 exemplaires de la Hulotte spéciale mare à chercher les têtards, à chercher les dithiques, à chercher d'autres bestioles. Et donc voilà, j'étais tout le temps dehors et j'avais pas trop le droit de regarder la télé, mes parents ne voulaient pas, ils avaient des prescriptions pédagogiques et donc tant mieux. Et encore maintenant d'ailleurs, hein, je suis pas très 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 télé quoi, mais bon, voilà.
Pad bla bla.
Pad bla bla.
Pad bla bla.
Pad bla bla.
Vous n'avez pas de télé, Emmanuel Holder ?
Là actuellement non, j'ai pas de télé. Non.
La télé c'est la nature finalement, c'est une grande télé non ?
Bah oui voilà, oui c'est ça, oui je vais dehors, je vis ma vie plutôt que de regarder celle des autres.
On peut en parler aussi, on peut faire le tour par exemple de la tourbière du Vénèque, il y a un chemin de randonnée qui fait 16 km il me
oui.
semble. Non
alors il ne fait pas que le tour de la tourbière du Vénèque, il fait le tour de tout le Yonne-et-Lèze, de toute cette cuvette.
Alors,
quoi,
le Yonne-et-Lèze, voilà. Connu, hein, voilà. C'est là les chiens de l'enfer, tout ça.
Voilà, donc les chiens noirs qu'on allait noyer dans le Yudik, enfin Tadikos, le recteur de Comana, les noyer les âmes damnées qui étaient transférées dans les chiens noirs dans le Yudik, la petite bouillie. Et donc ça, c'est une légende que vous pouvez retrouver dans les légendes de la mort de Anatole Braz.
Anatole Le Braz, oui.
Anatole Le Braz, oui. Ouais. Et donc voilà, donc c'est effectivement un milieu qui est mystérieux, qui est plein de qui est empreint de plein de mélancolie, mais aussi de joie, quand au mois d'août, toutes les fleurs sont roses, donc toutes les bruyères, les calunes fleurissent l'ensemble des landes et des tourbières du Yonne-et-Lèze. Donc c'est un paysage qui change à chaque saison, et même plusieurs fois dans la journée, en fonction des lumières, en fonction des nuages, en fonction de pas mal de choses, et puis aussi des humeurs de l'observateur, bien entendu.
Qu'est-ce que c'est que les calunes, Emmanuel ?
Les calunes, c'est la fausse bruyère, c'est celle que tu as dans ton jardin, et alors que les vraies bruyères ne se retrouvent que très rarement dans les jardins.
Alors, j'avais une question particulière, mais c'était au niveau du castor. Il y a des castors dans les monts d'Arrée ?
Oui, ouais, il y a encore des castors, et uniquement justement dans la grande cuvette du Yonne-et-Lèze, hein, donc sur les Lèzes et le Roux-Doudour. Donc c'est un animal qui a été introduit là en 1967, et puis...
Qui a été introduit et pas réintroduit.
Non, introduit. On pense qu'il n'y en avait pas avant en Bretagne ou alors des castors préhistoriques. Mais en tout cas, tu vois, quand tu vas regarder la toponymie d'autres villages en France, comme par exemple la Motte-Beuvron, Beuvron, ça vient de Bièvre, le vieux nom du castor. En Bretagne, il n'y a pas de nom dans la toponymie qui laisserait supposer qu'il y a eu du castor avant.
Et pourquoi introduire le castor du coup dans la...
Parce que le parc là qui habite juste de l'autre côté de la place.
Oui, ici au Fou.
Voilà,
tout
au
à
Fou.
Fait.
Voilà,
le parc naturel régional d'Armorique, assez bien.
Avait
au
besoin
Fou.
D'un animal emblématique à l'époque. Et donc la SEPNB, c'est-à-dire Bretagne Vivante avec son vieux nom, quoi. La SEPNB, l'ancien nom de Bretagne Vivante, voilà, avait été interrogée. On leur avait proposé différents animaux emblématiques et il y avait le castor qui était en stock entre guillemets, dans le sens où il y avait le professeur
en stock.
Voilà qui le professeur Richard qui cherchait à introduire ou réintroduire des castors un peu partout en France puisqu'il ne restait plus que des castors dans la basse vallée du Rhône, et donc de pouvoir élargir cette population nationale en mettant un peu ailleurs. Et donc le Yonne-et-Lèze était bien pratique parce que c'est une cuvette, c'est fermé. Donc les mâles et les femelles finissent par se rencontrer et faire ce qu'ils ont à faire.
Il y a combien de castors alors finalement ?
Alors actuellement, je pense qu'il y a un petit souci avec les castors.
Il y en a trop ?
Non, au contraire, là, pendant un moment, jusqu'en 2014, il y avait jusqu'à 11 territoires et là maintenant, on n'en est plus qu'à 4. Donc il y a un petit problème.
11 territoires et aujourd'hui 4 ?
Ouais.
Moi, ça m'a surpris de dire qu'il y avait des castors dans le Yonne et puis
Et le castor revient naturellement en Bretagne, hein, donc depuis
peut-être poser une question un
ouest,
petit peu bête, mais
enfin l'est plutôt, il revient tout doucement et peut-être que bientôt dans le Yonne-et-Lèze, on sera le dernier endroit où il n'y aura plus de castor en Bretagne, alors qu'on était le seul où il y en avait à un moment.
Et qui a été introduit justement.
Non, là ceux qui viennent là maintenant.
Est-ce qui est dû à quoi pour le coup ?
Je sais pas.
Question bête peut-être, hein, question un peu de la personne qui n'y connaît absolument rien en castor, mais ce sont les mêmes castors que l'on retrouve en Alaska par exemple ou pas ?
Non, il y a le castor américain qui est donc
okay.
aux États-Unis, Alaska, etc. Et le castor d'Europe qu'on retrouve donc en Europe, même s'il y a quelques castors américains qui ont été lâchés en Norvège, en Suède,
d'accord.
et qui ont pollué entre guillemets le génome du castor européen.
Alors, c'est très difficile de voir des animaux quand même comme ça dans leur milieu naturel. Il faut venir avec vous, Emmanuel, non ?
Oui, pour certains animaux. Sûrement, jamais je proposerai à quelqu'un d'amener voir un castor parce que je ne suis pas sûr du tout de le voir moi-même.
Déjà, ouais.
Et puis parce que dès qu'on est deux, on fait deux fois plus de bruit et donc c'est beaucoup plus difficile. Mais par contre, d'autres animaux, les papillons, les libellules, les lézards, tout ça, oui, effectivement. Et entendre les oiseaux. Et puis voir les milieux naturels. Et puis voir les plantes aussi.
Je sais que je marche beaucoup et c'est toujours un moment un petit peu magique de la vie quand je croise par exemple un chevreuil.
Oui.
Il y en a dans les monts d'Arrée aussi.
Oui, il y en a un peu partout en Bretagne maintenant, oui, effectivement. Oui.
Et qu'est-ce qui vous fait vous frémir ou de joie ou une espèce de cadeau de la vie que vous croisez comme ça quand vous faites votre travail sur les tourbières?
Effectivement, le chevreuil, c'est quelque chose de ouais, c'est
un moment magique. Hein.
C'est comme une antilope que tu verrais dans la savane. Quoi. C'est un peu notre antilope, notre gazelle.
C'est vrai.
Mais il y a aussi le renard quoi, qui, justement, est comme devenu très rare là, ces trois dernières années, on va dire, avec la gale. Donc c'est toujours.
Les victimes de la gale, le renard ?
Ouais, il y en a beaucoup moins. Ouais. Mais aussi d'autres oiseaux. L'autre jour, on faisait un comptage de busards, de voir passer devant vous une femelle d'autour. Donc, c'est un rapace qui est quand même bien costaud, qui passe juste devant vous. Quoi. C'est une émotion sans pareil. Pas plus tard que lundi, j'étais avec des gens à leur montrer différentes choses. Et puis, il y a un mulot qui est passé dans le talus juste à côté, poursuivi par une belette.
Ah oui !
Il s'est cassé la figure. La belette, accrochée par un morceau de grillage, a quand même réussi à choper au dernier moment le mulot. Et voilà, ça s'est passé en fraction de secondes, mais c'est un petit cadeau de la vie quand même.
Ah oui,
ouais.
Ça c'est étonnant. 10h30 sur Radio Évasion dans l'émission Pas de Blabla, nous sommes avec Emmanuel Holder. On va parler ensuite, en deuxième partie d'émission, du MOOC, du magazine de Cobraise et dont est à l'origine Emmanuel Glaze, La nature bretonne par nature, ainsi que son dernier livre, Eau douce à la découverte d'un milieu naturel breton. Le choix de l'invité, il nous expliquera pourquoi après, c'est Led Zeppelin.
We'll be right back.
Led Zeppelin, le choix de l'invité dans Pas de Blabla ce jeudi matin en direct sur Radio Évision. Le titre de Led Zeppelin est bien tout simplement When the Leaf Breaks. Pourquoi ce choix, Emmanuel Holder? Dites-nous tout.
Parce qu'elle a une sacrée rythmique, ce morceau. Quoi. Et puis parce que je suis fan de Led Zeppelin depuis très longtemps.
Apparemment, ce morceau-là se trouve sur le même album que le grand tube Stairway to Heaven.
Oui, c'est sur le 4. Ouais.
L'album 4.
L'album 4.
Vous avez tous, quoi, évidemment.
Ah bah oui. Plus en double, puisqu'ils ont sorti les remasters.
Voilà. Vous aimez autant Led Zeppelin que moi, Bruce Springsteen, par exemple.
Peut-être, oui.
Bon, alors, nous voilà partis maintenant à parler quand même de ce qui nous intéresse aussi avec Emmanuel Holder. C'est la création... quelle réussite, bravo, de ce magazine Glaze. Alors, si je demande à un ancien, par exemple, au hasard d'une commune comme Plougastel, par exemple, si je lui dis Glaze, il va me dire c'est bleu.
Ah, c'est peut-être vert aussi. Hein.
Ah, c'est peut-être vert.
Un petit peu de gris aussi, quoi.
Ah,
justement.
Ouais, c'est ça.
C'est ça, c'est pour ça que cette revue s'appelle Glaze, parce que c'est un peu vert, un peu bleu, un tout petit peu gris. Et donc, le vert de l'Argoat, le bleu de l'Armor et la touche grise du ciel breton, bien entendu. Et donc, ça coulait de source pratiquement, quoi, qu'on donne ce nom à une revue consacrée à la nature bretonne, puisque c'est vraiment de la nature bretonne dont on parle, hormis une rubrique consacrée à l'itinérance d'un breton ailleurs. Donc, le premier numéro, c'était une copine qui a fait le tour des îles Malouines en voilier, et le deuxième...
Norvège, non ? Le deuxième ?
Et le deuxième, c'était en Norvège, effectivement. Ouais. Et donc, c'est le courage, je dirais, de Cobraise, hein, donc de l'équipe de Cobraise, de s'engager dans ce genre de pari, quoi, parce que, bon, ça reste un pari, déjà, parce que je pense que tous les projets éditoriaux restent un pari aujourd'hui, et puis par ailleurs, parce qu'on parle de nature, et puis parce que bah, ils ont mis les moyens. C'est-à-dire que cette revue est cohérente du début jusqu'à la fin. Non seulement on parle de la nature bretonne avec des auteurs bretons, mais aussi sur du papier recyclé, et on l'imprime en Bretagne. Donc c'est un produit pur, je dirais. Mais bon, Cobray, ça fait déjà un moment qu'ils se sont engagés dans la nature. Hein. Je dirais que c'est l'éditeur breton de la nature bretonne, puisque donc ils m'ont suivi dans des premiers projets.
Ouais.
Donc le bouquin, c'était Landes Vivantes, une compilation des rubriques nature consacrées à la lande que j'ai édité dans le Poer Hebdo, puisque donc ça fait 20 ans que j'écris dans le Poer Hebdo. Et donc j'ai rassemblé toutes ces rubriques consacrées
des
à la lande.
Chroniques naturalistes, en fait. Hein.
Des chroniques naturalistes, tout à fait. Et donc je les ai compilés, j'ai mis des dessins, j'ai mis des dessins que j'ai faits, des photos que j'ai faits.
Alors vous faites de la photo, vous dessinez.
Ouais, il faut bien s'occuper quand t'as pas de télé, tu sais. Et donc voilà, Landes Vivantes est née.
Ouais.
Et donc ça, il y a quelques années. Puis après, à travers le bocage, où j'ai refait la même chose, mais avec mes rubriques qui ont trait au bocage. Donc les Landes et le bocage sont deux milieux naturels qui sont liés à l'activité de l'homme. Donc c'était justement pour montrer que l'homme et la nature peuvent vivre ensemble, pour peu qu'on s'en donne les moyens. Et donc le troisième qui est sorti...
Qui est là, il est tout chaud.
Voilà, à l'automne dernier.
À la découverte d'un milieu naturel breton, Eau Douce, Emmanuel Holder, chez Cobraise. Alors le premier, c'était en 2015, Landes Vivantes, et l'autre en 2018. Hein,
tout à fait, ouais, tous les trois ans à peu près.
Le bocage breton. Il y a toujours du bocage en Bretagne. Je sais qu'à Plougastel, il n'y a pas eu du tout de remembrement, hein, je vous le dis tout de suite.
Ben, hein. C'est tant mieux.
Ouais, c'est beaucoup tant mieux. Et donc alors... C'est chouette. Je suis pas d'accord avec toi quand tu dis qu'on peut le lire aux toilettes, mais
je dis souvent que c'est comme c'est une compilation de rubriques.
Oui, il y a des petites capsules, comme on dit, ou des petits encadrés, etc., que tu peux lire assez vite et tu apprends des choses. Alors, on apprend des choses. Il y a de très belles photos. Il y a les dessins de Manu Holder qui sont absolument top. Et puis, il y a du texte. Alors, j'avoue que tu mets ton humour aussi là-dedans parce que c'est rigolo, quoi. C'est pas un truc un peu chiant à lire, quoi, du tout.
Bah, j'essaye, oui.
En tout cas, pour le lecteur, il s'emmerde pas une seconde, quoi, si je me permets, quoi.
Bah, j'espère, merci. Non, mais je voulais justement ne pas. Que ça soit pas quelque chose de trop professoral ou trop encyclopédique et de parler de la nature comme moi je la connais, c'est-à-dire avec une paire de bottes aux pieds, une paire de jumelles autour du cou. Mmh. C'est plus ça, quoi, qui m'intéresse à partager avec les lecteurs.
Alors, si je vous lis le début de la quatrième de couverture, la Bretagne est une terre arrosée qui regorge de rivières et d'étangs, des crêtes des monts d'Arrée au bord de mer, les fleuves creusent les flancs de l'ouest de la péninsule, tandis que les rivières se prélassent en méandres dans la partie orientale. Ça doit un peu t'agacer. passer là, non, ce qui se passe au niveau de du Lapig avec cette histoire de déchets là qui sont partis à l'eau dans les Lornes avec cette manifestation des agriculteurs, c'est il fallait y penser avant, peut-être, non, de pas amener des produits toxiques comme ça, venir ça malheureusement dans la presse, quoi. Alors ils ont sûrement des revendications justifiées, voilà, mais là c'est un peu ballot quand même, quoi, pour le coup, hein. Oui, c'est... parce que ça pollue à nouveau, quoi, le
oui. Oui, je préfère ne pas faire de commentaires.
Bah voilà, parce que bon, on va un peu s'agacer. Ouais. C'est vrai que c'est l'actualité aussi.
Non, mais c'est.
On lisait ça ce matin. Et c'est
tellement miséreux que.
C'est terrible, parce que du coup, ça pollue. D'ailleurs, c'est, alors il faut faire très attention. Où c'est que ça en est aujourd'hui, Emmanuel Derz, notre milieu naturel, notre eau, alors les ruisseaux, etc., tout ce qui part des communes, il y a une certaine pollution ou pas, où ça va mieux ou...
Je pense que les agriculteurs ont fait beaucoup d'efforts, effectivement, pour qu'il y ait moins de charges organiques dans les rivières, mais il en reste toujours. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a beau avoir des normes pour les exploitations, etc., quoi qu'on épande du lisier sur les champs et qu'il n'y a plus de talus, bah, ça file à l'eau et puis ça va jusqu'en mer, quoi. Donc c'est tout qui est foutu, je dirais, quoi. Bon, après, il faudrait remettre des talus, il faudrait remettre des zones humides, Et voilà, et donc non, parce que c'est pas possible de travailler, d'influencer la politique agricole en Bretagne, parce qu'il y a trop d'enjeux et c'est dommage.
Pad bla bla.
Pad bla bla.
Pad bla bla.
Pad bla bla.
On va parler de glace.
On va parler de glace, oui, c'est ça. On va pas parler de choses qui fâchent, on va parler de glace, donc c'est le numéro 2, enfin non, tu es déjà en train, bien entendu, de travailler sur le numéro 3 qui va sortir bientôt, dans 2 mois ou quelque chose, non?
Ouais, c'est ça, mi-avril à peu près.
Voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'on
trouve? Je peux te dire qu'il est bouclé, mais...
Il est bouclé, ouais, voilà, ouais. Bien sûr. Qu'est-ce que... Alors je sais pas si on peut parler des deux premiers, évidemment, je te poserai peut-être la question tout à l'heure, savoir qu'est-ce qu'il y aura dans le troisième, mais alors, comment tu as fait? Parce que tu as regroupé des rédacteurs, des auteurs, hein?
En fait... L'histoire est simple, c'est que quand j'ai vu donc les livres que j'ai édités à Cobrez et que j'aurais aimé avoir des petits copains dans la même écurie Cobrez, et bien donc j'ai proposé à Daniel Leteuf de faire une...
Qui est Daniel Leteuf?
Daniel Leteuf, c'est le directeur de Cobrez, ouais. De créer une ligne, enfin une collection nature, de livres nature, et donc j'ai cherché. Mais peu de gens rêvent finalement d'écrire des livres, alors que je pensais que tout le monde rêvait. Et donc voilà, bon, on a fait une nouvelle réunion avec Daniel Leteuf et la nouvelle éditrice qui est Jeanne Le Guenec, et en disant, bah, je leur disais, je trouve pas, quoi. Et donc Jeanne a eu cette idée de MOOC, donc de magazine book, donc une contraction entre magazine et... Book. En fait, c'est une revue richement illustrée qui a cette allure de livre, quoi, effectivement. Et donc là, c'était plus facile de trouver finalement des auteurs. Et donc, c'est pas forcément des auteurs attitrés, on va dire. C'est plus des
naturalistes. Ça change.
Voilà.
Ça a changé sur les deux premiers numéros.
Et puis on va continuer comme ça, à part moi, bien sûr, parce que je suis le coordinateur de cette revue et des fois j'écris un petit peu, des fois je ramène des photos.
Tu fais un édito, hein, c'est
voilà,
ça.
Voilà, je fais mon édito aussi.
Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un MOOC, peut-être que ça va plus vous parler que Glaz, même si maintenant Glaz est en bonne place aussi, par exemple chez Dialogue, à Brest, etc. On le trouve un peu partout, Glaz. Hein. C'est comme America, par exemple, de François Bunel, c'est ce style-là de magazine, hein. Et aussi Zadig d'Éric Fotorino, le même format, la même qualité de papier, etc., papier recyclé, etc. Et c'est très, très, très chouette, très riche. J'ai bien aimé... plein de choses, j'aime les photos, j'aime les dessins. J'ai lu un papier très intéressant sur les chauves-souris, avec cette histoire de maison, cette grange découverte un peu par hasard par des naturalistes, ouais.
En fait, moi, mon travail, c'est d'ouvrir mon carnet d'adresses de tous les gens que je connais qui travaillent dans la nature ou qui sont passionnés de nature. Et en fait, la passion leur permet d'écrire ou de photographier ou de dessiner, et bien souvent les trois en même temps, et donc de nous faire partager ça. L'idée, donc, la ligne éditoriale de Glaz, c'est de se dire que, une fois que le lecteur a refermé la revue, il n'a qu'une seule envie, c'est d'aller dans la nature, marcher avec ses
potes, c'est ça.
Et d'aller le nez au vent, écouter les oiseaux, renifler les fleurs, etc. C'est vraiment que du plaisir, c'est pas du tout scientifique, même si on a plusieurs rubriques et qu'on a une petite rubrique en partenariat avec Science Ouest, ce magazine qui parle des scientifiques bretons. En dehors de ça, on n'a pas de prétention scientifique. Il y a plusieurs rubriques consacrées aux animaux. Il y en a une qui est consacrée aux herbes folles, donc aux plantes. Une autre qui est consacrée à un petit coin de nature. Donc c'est un naturaliste qui parle de son terroir. Dans le premier numéro, c'était René-Pierre Bolland qui parlait de la baie de Saint-Brieuc avec des photos superbes. Le deuxième, c'était Michel Sibéry, donc un naturaliste qui connaît très bien le Crès-Brez et qui nous a parlé des hotspots de la nature dans Centre-Bretagne. Bref, on a un certain nombre de rubriques et notamment donc celle dont je parlais tout à l'heure, itinérance d'un Breton, donc ailleurs en Bretagne qu'en Bretagne, un portfolio.
Ça
aussi.
C'est chouette ça aussi.
Ouais. C'est chouette parce que ça fait voyager.
Oui.
Et ça ramène aussi tout l'intérêt d'être aussi en Bretagne et de profiter de cette nature. Il y a effectivement des choses qui sont très belles ailleurs qu'en Bretagne, mais il y a aussi la Bretagne, il ne faut pas l'oublier. Et d'ailleurs, ça inspire pas mal de gens, d'où aussi une rubrique art en nature, avec donc le travail d'un artiste qui est mis en valeur, un artiste qui s'inspire de la nature, qui va puiser son inspiration au fin fond de la nature. Une rubrique aussi consacrée une asso, une action. Donc plutôt que de présenter une association, puisque donc c'est quand même les acteurs majeurs de la protection de la nature en Bretagne et en France d'une façon générale, eh bien on propose donc
faire
le focus sur une action.
Sur une asso.
Donc pour le troisième numéro, je peux vous dire qu'il y aura une troisième rubrique, puisque donc les retours des lecteurs sont très positifs sur ces deux premiers numéros. La seule critique qu'on a eue, c'est glace, mais pas une seule page en breton. Donc on a un article en breton qui est aussi traduit en français.
Oui, qui est un poème en l'occurrence.
Non.
Il y a un article. Ah oui, dans le prochain,
dans
tu
le
veux
prochain,
dire.
Voilà.
Oui, d'accord.
Oui. Okay. Alors effectivement, dans le numéro 2, il y avait un poème de Angela Duval. Quoi, parce
oui,
que
ouais.
On peut difficilement parler de poésie et de nature en Bretagne sans parler d'Angela Duval.
Je crois qu'on peut se procurer d'ailleurs, il y a un recueil d'Angela Duval qui vient de tout
sortir.
Juste...
Ouais, ouais, mais,
qui vient de sortir.
Oui.
Hein. Vous pouvez vous procurer évidemment en librairie. Puis bon, moi j'adore les chemins. Alors il y a de superbes photos de chemins un peu encaissés, etc. On a la chance de vivre dans des régions absolument magnifiques et Glaz le rend particulièrement bien. Bravo Emmanuel Holder. Monsieur Seb, envoyez-nous donc ce petit générique là, générique sur les séries là. Ah oui, vous avez vu comment ça passe vite, monsieur Sem ? On est d'accord, monsieur Holder, ça passe très vite l'émission. Nous sommes déjà en retard. Alors, la petite question, c'est comme le choix musical de l'invité. On va dire, qu'est-ce que vous regardez comme série, Emmanuel Holder, par exemple ? Hein ? Allez, dites-nous tout, The Walking Dead, Downton Abbey.
Non, je regarde pas.
Un truc sur la nature, il n'y a pas une série sur la nature ?
Non,
je suis voilà.
Désolé.
Monsieur Holder n'a pas de télé, alors évidemment, comment voulez-vous qu'il regarde des séries ? Alors, c'est la première de Pas de Blabla. Qu'est-ce que vous regardez comme série ? Le monsieur regarde pas de série, monsieur Sepp. Non, mais franchement, Emmanuel Holder. Vous n'avez pas de télé, en fait. Donc,
non, j'ai pas de télé.
Sur,
bah, pour
regarder sur l'ordinateur.
Sur l'ordinateur, hein, mais j'ai essayé, mais ça m'a.
C'est pas votre truc.
J'ai un peu l'impression.
Quand vous étiez enfant, vous regardiez bien quelque chose.
Allez, ouais, d'accord. Ouais,
là, allez, cherchons.
Starsky et Hutch. J'ai regardé Mon ami Ben. Donc,
ah, Mon ami Ben, c'est l'ours, là.
Oui, voilà, ouais.
Avec l'acteur américain avec les cheveux longs, la grosse barbe,
ouais,
là,
ouais,
qui est très connu.
Ressembler, là. Je voulais ressembler.
Ah oui, comment il s'appelle, cet acteur, je me rappelle.
Et
c'est très connu aux États-Unis, hein.
Oui. Ouais.
Et c'était un ours, ouais. Je vois, c'est un western, en fait. C'est un peu.
Ouais. Il vivait avec son ours. Là.
Oui.
Il y avait un vieux qui venait avec son âne.
C'est ça.
Voilà.
Ouais.
Bah ça, j'aimais bien, voilà.
Et c'était Mon ami Ben, en français.
Ouais, je crois.
Ouais, c'est ça. Ouais, je me rappelle très, très bien. Alors, les plus jeunes ne se rappelleront pas de cette série, mais effectivement, taper sur un moteur de recherche, vous verrez Mon ami Ben, et puis vous verrez ce grand monsieur avec la barbe. Ça passe vite le temps dans Pas de Blabla, ça passait très vite dans l'Instant C, ça passe toujours aussi vite dans Pas de Blabla. On se fait un petit dernier morceau musical et puis on se retrouve appelé Manu pour conclure.
L'autre jour au café, j'ai entendu un député qui a un ami murmurait ceci: prends tes précautions et surtout fais bien attention aux prochaines contributions. Puis mystérieux et très sérieux, il ajouta: mon vieux, si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano, cache ton banjo, cache ta trompette, ton tambour avec tes baguettes, tes castagnettes et tes grelots. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton phone, cache tes rouleaux, cache tes claquettes, ton trombone et ta clarinette. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano. Je me dis ça pristi, il faut que tout le monde soit averti. Dans un thé dansant, je cours immédiatement. Quatre musiciens, de très beaux oiseaux hawaïens, grattés sans se douter de rien. Au maestro des musicaux, je chantais mon pauvre gros. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano, cache ton banjo, cache ta trompette, ton tambour avec tes baguettes, tes castagnettes et tes grelots. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton phono, cache tes rouleaux, cache tes claquettes, ton trombone et ta clarinette. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano. Les ayant prévenus, je suis allé voir une revue. Au casino le soir, je m'offre un promenoir. Lorsqu'au même instant, je vois la vedette en chantant, qui souriait toutes ses dents. Dans la coulisse, vite je me glissais tout bas. Je dis ensuite, si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano, cache ton banjo, cache ta trompette, ton tambour avec tes baguettes, tes castagnettes et tes grelots. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton phono, cache tes rouleaux, cache tes claquettes, ton trombone et ta clarinette. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano. L'autre jour à Bruxelles, je pars acheter de la dentelle. Quand sur une fontaine, je vois qu'elle s'en gêne. Un gosse plein de vis qui montre à tout son appendice. C'était le mannequin pis. Je lui dis, mon petit, c'est de la folie de montrer ton nombril. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano, cache ton banjo, cache ta trompette, ton tambour avec tes baguettes, tes castagnettes et tes grelots. Si tu ne veux pas payer l'impôt, cache ton phono, cache tes rouleaux, cache tes claquettes, ton trombone et ta clarinette. Si tu ne veux pas payer l'impôt, cache ton piano.
Non, j'ai un petit problème avec mon... Je suis en train de me battre avec mon casque. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur Seb, avec ce casque? Ah, ça y est, pardon, excusez-moi. Voilà.
Faut le mettre sur les oreilles, le casque.
Oh, j'ai cru qu'il était vivant à un moment donné.
Le poulpe.
Emmanuel Holder pour le magazine Glaze. On va conclure, le temps passe très vite dans Pas de Blabla sur Radio Évasion. Alors, je vous conseille fortement à la découverte d'un milieu naturel breton sur les eaux douces, ainsi que ceux d'avant, hein, Landes Vivantes, Manu, et à travers le Bocage Breton également en 2018. Donc ça, c'est chez Cobraise aussi, et Glaze, évidemment. Vous pouvez toujours trouver les numéros, je crois. Hein, je
oui,
pense,
oui.
Hein,
encore que le numéro 1, ça devient presque un collector, parce qu'on est un peu victime de notre succès. Mais le numéro 2, oui, vous le trouvez. Et puis
on garde cet esprit pour le numéro 3 qui sortira au mois d'avril. On garde l'esprit dessin aussi, couverture,
exactement,
tout ça.
Exactement. Oui.
Ah, super.
Ça va être une belle couverture aussi, de nouveau.
Ah, c'est chouette ça. Bah, merci Manu d'avoir été avec nous ce matin.
Juste vous dire que pour le trouver, les meilleures librairies, ce n'est pas sur abonnement, mais vous pouvez le trouver dans les bonnes librairies.
Oui.
Et les bonnes pharmacies aussi.
Et les bonnes pharmacies. Ben, on se retrouve sur la Lande, alors probablement, Manu.
Certainement.
On va peut-être marcher ensemble, un de ces quatre, ce serait sympathique. Et puis, moi, vous m'apprendrez plein de choses aussi dans ce cas-là. Eh ben, écoutez, je voulais quand même dédicacer cette première de Pas de Blabla à notre ami Kevin Quad qui est parti. Il est parti trop tôt, notre kéké, alors on l'embrasse. Je suis sûr qu'il est là en train de faire le con à côté de moi. Voilà, envoyez le générique, monsieur Seb.
5, 4, 3, 2, 1.
Pas de blabla.
Une émission de Patrice Salin. On parle culture, on n'y va pas par quatre chemins.
Ils sont partis.
Alors, on se retrouve dans deux semaines, donc deux jeudis par mois. Nous serons le 24 février, entre 10h et presque 11h. Merci, monsieur Seb, à la réalisation technique. Merci, Manu Holder. À la prochaine. Kenavo, on se retrouve sur le podcast aussi de Radio Évasion, bien sûr, si vous n'étiez pas avec nous en direct ce matin. Allez, à très vite. Bis à l'œil. Kenavo.